Aligre FM.
Donner du sens au mot liberté.
En toute indépendance et sans publicité.
Pour continuer cette aventure, et parce que l'indépendance a un prix,
soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous rendant sur le site de la radio et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram d'Aligre FM.
Aligre, ça fait 40 ans que ça dure.
Bonjour à toutes et à tous, à tous nos auditeurs d'Aligre FM. Bienvenue aujourd'hui, le 8 avril, pour cette première émission de l'année 2023 de Philosophie au présent, avec une toute nouvelle équipe que je vous présente dans quelques instants. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent désormais depuis 5 ans que l'émission de Radio Philosophie au présent, Voix du Collège International de Philosophie, propose donc aux auditeurs d'Aligre FM des investigations philosophiques en ouvrant des perspectives d'approche au champ de l'art, de la littérature, mais aussi de la politique et de la société, et en faisant dialoguer la philosophie avec les autres disciplines. Alors j'ai le plaisir d'avoir désormais, en plus d'Isabelle Raviolo qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous et que nos auditeurs connaissent bien, se réfèrent souvent à sa voix qui est très singulière, j'ai donc le plaisir d'accueillir deux nouveaux collègues du Collège international de philosophie. Je commence par Stéphanie Ronchevski de Gore. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et puis notre collègue italien, Michele Saporiti, qui va nous apporter sa jolie voix italienne et son expertise de philosophe. Bonjour Michele.
Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Très content d'être avec
Michele.
Vous.
Et voilà, alors nous sommes très heureux de commencer cette année 2023 avec un ensemble d'émissions que nous posterons sur le site d'Aligre FM. Et Michele, nous a fait le plaisir d'inventer une nouvelle rubrique qui s'appelle Flanosophie, qui terminera désormais chacune de nos émissions. Et Michele nous la présentera tout à l'heure, après... cette grande thématique qui nous intéresse aujourd'hui et que nous avons nommée « Enseigner la philosophie au présent ». Alors, on va commencer tout d'abord par essayer de présenter, chers auditeurs, ce qui, pour nous trois, a fait que nous avons rencontré la philosophie et que nous sommes devenus des enseignants en philosophie. Autrement dit, nos coups de foudre. Alors, je te laisse la parole, Stéphanie.
Alors, moi je suis enseignante en lycée depuis une vingtaine d'années, après avoir été d'abord conseillère d'éducation. J'ai été dans des établissements difficiles, puis ce qu'on appelle des bons établissements, mais les conditions ont changé, mais mes rapports aux élèves et à la discipline, pas tellement. Alors, comment se fait la rencontre avec la philosophie ? Déjà, elle se fait à cet âge paradoxal qui est l'adolescence, où on veut à la fois se fondre dans la masse et en même temps affirmer son identité. Et justement, la philosophie offre la possibilité de réfléchir à toutes ces normes et à notre mode positionnement par rapport à elles. C'est l'occasion de sortir d'une sorte d'enfermement social, familial, scolaire. Voilà, et donc pour moi, la philosophie, c'était synonyme de quête de lucidité. Il y a eu bien sûr la figure marquante de Socrate, qui invente la maïeutique, cet art d'accoucher les esprits, et qui place d'emblée la pensée dans le dialogue. Dialogue de l'âme avec elle-même, mais aussi dialogue du professeur avec ses élèves. Alors, pour moi, il y a eu un texte fondateur aussi, que j'ai un grand plaisir à enseigner aussi à mes élèves, c'est le discours de Diotime dans Le Banquet de Platon, où on voit vraiment que faire de la philosophie, c'est une tâche infinie qui s'articule autour de l'éveil intellectuel et qui est ce plaisir, en réalité, de vouloir toujours atteindre un savoir qui ne cesse, comme dit Platon via Socrate, via Dotyme, qui ne cesse de nous filer entre les doigts. Voilà. Et pour moi, donc, l'enseignement de la philosophie, c'est une manière de se questionner et d'échanger même des questions. Voilà, et de rester éveillé.
Merci Stéphanie. Alors je passe la parole à Michele pour tes coups de foudre philosophiques, en tout cas, ou ton coup de foudre philosophique, je ne sais pas, qui a fait que tu es entré dans cette, entre guillemets, discipline.
Oh, merci Nathalie, merci Stéphanie. Oui, bon, plusieurs coups de foudre avant tout, on doit dire comme ça. Ah, oui, un coup de foudre tout à fait dans la jeunesse, la première jeunesse, qui pour moi a été... ça a été Schopenhauer, les aphorismes, une vie plus sage. Aussi, l'endroit fait beaucoup dans ce coup de foudre. Je lis Bois, je lis Pâques, on lit, on regarde. Il y a le ciel, il y a nous, encore nous. Et cette possibilité immense de penser dans la tranquillité. Et après, je dois dire, les grands coups de foudre dans ma, on peut dire, deuxième ou seconde jeunesse, qui a été un philosophe italien... qui je suis très attaché, je dois dire, et aussi du point de vue scientifique, qui est Norberto Bobbio. Oui. Norberto Bobbio, un grand philosophe de la politique, grand philosophe du droit, sénateur de la République, une personne d'une grandeur immense, et aussi, je dois dire, aussi d'une certaine capacité prophétique dans les analyses qu'il a fait, surtout en ce qui concerne la paix, la guerre, le rôle aussi de l'intellectuel. J'ai toujours trouvé fascinant et en même temps tout à fait comment dire, bizarre de penser à l'intellectuel comme aussi au travail intellectuel, comme une forme d'engagement. Engagement civique et civil. Donc on fait de la philosophie, on essaie d'étudier les choses, de comprendre la réalité et voilà, c'est là. Encore, c'est là, avant tout là, qu'il y a un engagement, notre engagement dans la société. Un engagement peut-être politique tout à fait particulier, on peut dire comme ça, d'une politique très haute, quelquefois on l'a vraiment oublié, mais c'est une politique dans les sens, on peut dire, étymologiques, c'est-à-dire c'est dans la vie de la police, dans la vie vraiment de la ville, de la cité, dans la communauté politique, et nous trouvons aussi l'envie, le courage d'accomplir notre travail philosophique. Donc, pour te répondre, chez Nathalie, oui, plusieurs coups de foudre, peut-être, et maintenant, quel est mon coup de foudre? Ah bon, je veux pas répondre maintenant, mais oui, bah, oui, c'est intéressant. Et pour toi, Nathalie, quel est ton coup de foudre ou tes coups de foudre,
hein? Alors, mes coups de foudre, voilà, la première fois que j'ai rencontré la philosophie, c'était à l'âge de 13 ou 14 ans, quand j'ai commencé à lire Sartre et Simone de Beauvoir. Et bon, je comprenais rien à Sartre et Beauvoir. J'en avais que les clichés, parce que j'habitais la province, donc pour moi, c'était Paris, moi, finalement, pour moi, et ça a toujours été ça, la philosophie, c'est Paris, Paris, c'est la philosophie. espèce comme ça de fantasmes, un petit peu d'imagination de la philosophie en rapport avec la capitale d'une jeune fille de province. Alors je comprenais pas philosophiquement, mais ce qui m'avait énormément touchée, c'était ce couple intellectuel, précisément, hein, tu parlais de la question de l'intellectuel. Ce drôle de couple anti-bourgeois, alors peut-être que c'est lié précisément au fait que je viens d'une petite province française avec un fort impact bourgeois, comme on peut se l'imaginer, avec voilà, une manière de faire couple et de faire famille absolument traditionnelle. Et mes premières lectures de Sartre et de Beauvoir, beaucoup de Beauvoir, hein, j'ai beaucoup lu ses romans philosophiques, ou ses biographies philosophiques, ou c'est, voilà, comme on veut. Et puis les pièces de théâtre de Sartre, ça m'a vraiment... c'est ce couple-là, et j'ai beaucoup rêvé à ce couple d'intellectuels, à ce plan d'égalité entre l'homme et la femme. Et ça n'est que finalement assez récemment que j'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et que j'ai compris bien plus tard l'importance de la philosophie sartrienne. Ce que j'ai aimé chez Sartre et que j'ai rencontré plus tard avec François Châtelet, sur lequel j'ai travaillé en faisant ma thèse de doctorat, c'était, je crois, la popularisation de la philosophie ou une philosophie populaire qui s'exprimait non pas seulement à travers les essais philosophiques, mais à travers le théâtre, à travers les romans. Voilà, ça a été mon premier coup de foudre philosophique et le second, François Châtelet, bien plus tard en thèse. Voilà. Bon, chers auditeurs, voilà, vous avez un peu entendu nos voix, vous êtes familiarisés avec nos voix et avec notre coup de foudre philosophique qui fait que nous sommes enseignants aussi bien dans le supérieur qu'au lycée, que chercheurs au sein du Collège international de philosophie, écrivains, voilà, aussi. Alors nous allons maintenant démarrer peut-être le premier point, hein, je rappelle à nos auditeurs que notre émission aujourd'hui traite de la question de enseigner la philosophie au présent. Un premier point, c'est, bon, on voulait un peu déplier ensemble ce que supposait enseigner la philosophie. Alors, on s'est distribué la parole, hein, chers auditeurs, voilà, vous en doutez un petit peu pour cadrer les choses. Alors, je commence. moi, je me suis posé la question de ce que ça voulait dire qu'enseigner, hein, quand on essaie un peu de déplier, un peu à la manière dont nous faisons cours parfois au lycée, c'est-à-dire on essaie de déplier la question ou l'affirmation, hein, qu'est-ce que ça veut dire enseigner ? Alors, quand on regarde un peu la définition de l'enseignement, c'est une sorte de précepte, hein, quand on va regarder dans le dictionnaire, qui enseigne une manière d'agir, de penser. Hein. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, d'obligation. Hein. Le précepte, c'est quelque chose qui oblige dans une direction, hein, qui emmène dans une direction de l'agir ou du penser. Dans un deuxième sens, l'enseignement, c'est aussi une idée de transmission, hein, de transmettre par exemple à un élève ou un étudiant de façon à ce qu'il comprenne et qu'il assimile certaines connaissances. Donc il y a l'idée de faire apprendre ou de donner à apprendre. Alors, partant de ces définitions, quand on revient un peu dans le premier sens, hein, le précepte qui enseigne, manière d'agir ou de penser, on voit bien qu'il y a une idée d'imposition, hein, de celui qui détient le savoir face à celui qui est jugé ignorant. Autrement dit, classiquement, et je pense qu'il en reste aussi quelque chose, bon, on pense à Jacques Rancière qui a essayé de questionner ce rapport maître-élève, qui est un rapport transcendant, hein, de celui qui sait à celui qui ne sait pas. Et du coup, pour moi, la question de enseigner la philosophie et la question donc à travers ça de l'enseignement, de la posture de l'enseignant, c'est quel rapport devons-nous mettre en place avec ceux auxquels on transmet des savoirs ou des connaissances. Et dans un deuxième temps, évidemment, qu'est-ce qui est transmis ? Alors, là, je vous laisserai discuter, Stéphanie et Michele. Je lance un peu des choses, mais que veut dire enseigner dans le cadre institutionnel qui est le nôtre, hein ? Alors là, je prends l'Éducation nationale, je prends aussi le ministère de la Recherche. Michele, tu nous parleras très certainement aussi de ce cadre institutionnel en Italie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, finalement, dans la question de l'enseignement de la philosophie, de reconduire l'idéologie sociale ? Hein. La question, et là on touche à quelque chose, à une question centrale qui est la question centrale des programmes, hein, qui implique une manière de regarder la réalité. Hein. Par exemple, la tentative toute récente, Stéphanie pourra confirmer, avec la dernière réforme du baccalauréat et de la philosophie, la tentative de faire disparaître la notion de l'inconscient. Hein, pour les terminales générales. Bon, il se trouve que cette notion n'a pas disparu parce qu'il y a eu un tel tollé que c'est resté dans les programmes des terminales générales. Mais on se pose une autre question. Comment ça se fait qu'on a fait disparaître la question du bonheur chez les terminales technologiques et que la notion de l'inconscient n'apparaît pas dans les programmes des terminales technologiques ?
Il y a donc... conscience.
Pardon ?
Même pas la conscience.
Et même pas la conscience, d'ailleurs. Hein, mais la conscience, on peut la retrouver dans la notion de la liberté qui est commune au terminal technologique et au terminal général. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'un programme de philosophie a à nous dire quand il rend absent des notions qui, pour nous, en philosophie comme l'inconscient, et on pense à Freud, sont venues bouleverser l'image est la définition d'une humanité. Alors je pense ici, et je fais un rappel à nos auditeurs et à moi-même d'ailleurs, je fais le rappel d'Althusser, hein, qui dans son livre « Position », paru aux éditions sociales en 1976, parle des appareils idéologiques d'État. Hein. Dans ce livre, et précisément dans cet article qui s'appelle « Idéologie et appareils idéologiques d'État », Althusser va dénoncer l'école, hein, le lieu de l'école, comme étant un appareil idéologique d'État, c'est-à-dire dans lequel, finalement, une idéologie va se transmettre, l'école venant prendre la place de l'Église, hein, l'Église disparaissant, le rapport à Dieu disparaissant petit à petit, qui prend le relais d'une forme de moralisation sociale, c'est l'école, avec un grand E, au sens aussi bien du primaire, du secondaire que du supérieur. Et Althusser insiste là-dessus, là c'est très intéressant, c'est-à-dire que pour lui, au centre de l'idéologie figure la catégorie même de sujet. C'est-à-dire, pour lui, la catégorie du sujet, donc là on revient à la question de la conscience, hein, est fondatrice de toute idéologie comme reproduction des rapports de pouvoir. Bon. Alors, je laisse nos auditeurs aller regarder hein, cet article de Louis Althusser, Idéologie et appareil idéologique d'État, pour bien saisir finalement à quel point l'idéologie, c'est d'abord une définition et une détermination de ce que l'être humain a à être. Bon. Et ce qu'il a à être, c'est un individu reconnaissable, se positionnant clairement dans la société pour finalement obéir à une fonction qu'il acquérera avec plus ou moins d'études. Autrement dit, on voit bien que là, il s'agit du système capitaliste. L'école aurait finalement à soutenir un système qui reproduit la normalité. Bon. Alors, un deuxième moment, et je vous laisse la parole, je livre un petit peu en vrac ce questionnement de que veut dire enseigner, en faisant là appel à une revue qui, en son temps, avait fait grand bruit, la revue Recherche. C'est notamment Anne Kérien hein, qui fait encore partie de la revue Chimère, qui était au centre de cette revue Recherche. Dans le numéro précisément de juin 1970, le numéro 23, ce numéro était titré « L'enseignement », en écrivant « enseignement » à partir du mot « saigner ». Hein, E-N-S-A-I-G-N-E-M-E-N-T. Alors, en préparant cette émission, je me disais finalement, et dans la poursuite d'Althusser, l'école fait saigner. C'est-à-dire, au sens idéologique du terme, elle fait saigner, c'est-à-dire dans le sens d'une reproduction, hein, d'une imposition de la loi à travers l'école. Hein. L'école impose des lois, impose des comportements impose l'idée qu'il y a à occuper une place dans le social. Bon. Donc, alors on pourrait jouer aussi avec la question de l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement idéologique fait saigner, institutionnel, hein, il nous fait saigner. Mais alors du coup, la position du professeur n'est-elle pas d'opérer une saignée au sens S-A-I-G-N-E accent aigu E, c'est-à-dire une résistance? Hein, et là, je cite notamment Anne Kérien, une résistance qu'Anne Kérien nomme ligne de fuite, point de débordement, par et dans l'école. Donc, qu'est-ce que c'est que le rôle finalement de l'enseignant dans le système scolaire? C'est peut-être d'essayer de défendre une véritable démocratisation. De l'enseignement, c'est-à-dire de lutter contre la reproduction de classe. Hein, là, c'est Althusser qui nous apprend ça. Et précisément, d'opérer avec la philosophie, mais ça, je vous laisse la parole, on y reviendra plus tard, d'opérer avec la philosophie un renversement des valeurs, hein, puisque le travail philosophique est bien précisément de se séparer des opinions, puisque Stéphanie, tu faisais appel tout à l'heure à Platon et à Socrate, hein, qui est le départ de la philosophie d'une mise en question de la doxa. Alors là, je livre ça un peu en vrac, et je vous laisse la parole. Stéphanie, honneur aux femmes.
Très bien.
Absolument.
Bon, ben je vais dans la continuité un peu de ce que tu dis, en tout cas du questionnement sur davantage moi l'enseignement de la philosophie au lycée, puisque c'est ce que je connais le mieux. Mais il y a une vocation pour moi à l'émancipation dans l'enseignement de la philosophie, et avec cette idée que on doit apprendre à penser par soi-même, c'est même dans les programmes, à lutter contre les préjugés, et paradoxalement, justement, comme tu le disais, ça se fait dans le cadre d'un programme qui nous est imposé. Alors, nous sommes des fonctionnaires, mais nous ne sommes pas simplement là pour appliquer une fonction, et il y a quelque chose aussi qui peut être de l'ordre du renversement des valeurs, hein, comme tu le suggères. Alors, c'est un programme, je trouve, qui est intéressant en terminale. Alors, il n'arrive qu'en terminale, parce qu'il est aussi ouvert sur toutes les autres disciplines. Et donc, ça fait appel aussi à la maturité des élèves et à cette capacité à réfléchir sur un certain nombre de connaissances. Alors, juste, je rappelle quand même à nos auditeurs qu'il y a eu une réforme en 2019 qui fait qu'au lycée, il n'y a plus les séries qu'on avait auparavant, dans les séries générales littéraires, qui distinguaient les littéraires, les scientifiques, ceux qui étaient plutôt versés dans les sciences économiques et sociales. Mais chacun, à la carte, prend sa spécialité. Et donc, 4 heures de philosophie pour tout le monde. Et ceux qui le désirent font la spécialité HLP. HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, qui donc ramène la philosophie du côté de la littérature. Donc, on ne va pas en discuter maintenant, mais c'est quelque chose qui se discute hein, pour justement une discipline qui était considérée très longtemps comme la reine des sciences.
Tout à fait.
Voilà. Alors, pour décrire ce qu'est l'enseignement philosophique, Kant distingue et même oppose, et cette opposition est discutable aussi, apprendre à philosopher et apprendre la philosophie. Et ça fait l'objet de débats lorsqu'il y a des réformes. Ça permet aussi de comprendre les différents systèmes selon les différents pays. Je pense vraiment que vouloir les opposer, hein, apprendre à penser, apprendre à conceptualiser, à problématiser, n'est pas opposé, distinct de apprendre l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'histoire des idées de la philosophie, l'histoire des auteurs, dans la mesure où, évidemment, il me semble assez difficile de comprendre l'histoire de la philosophie sans réfléchir soi-même, et il me semble difficile de réfléchir sans s'appuyer sur une histoire de la philosophie, les philosophes étant eux-mêmes imprégnés de cette histoire de la philosophie, hein, même s'ils dépassent chacun leurs prédécesseurs, ils les relisent et les refont vivre à chaque fois. Hein. Donc, ce qui m'intéressait, c'est comment dans ce cadre, la philosophie peut être justement une forme de liberté par la possibilité de comprendre le monde dans lequel on est et de comprendre notre rapport à ce monde et du coup qui on est nous-mêmes, hein, de manière à ne plus subir la nécessité. C'est-à-dire que bon, j'ai une approche là un petit peu cartésienne où c'est la liberté éclairée, le fait de pouvoir agir en connaissance de cause hein, qui nous rend... c'est la connaissance qui nous rend libre. Hein, cette idée... qu'on ressent aussi dans certains pays où finalement on le ressent dans les pays où on en est privé hein, de l'éducation hein, parce qu'on est automatiquement privé de liberté, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre aux élèves, et c'est ce qui renvoie au fait que la philosophie n'est pas là dans un premier temps pour répondre à une fonction utilitaire, économique, professionnelle, mais peut-être même si dans le monde du travail on demande des gens cultivés et qui savent réfléchir, mais c'est plutôt une fonction existentielle et bien sûr, comme tu le disais, Michele, de faire de nous des citoyens éclairés, hein, de manière justement par ce questionnement incessant, de manière à pouvoir alimenter ce que devrait être une véritable démocratie. Hein, donc apprendre à réfléchir, apprendre à dialoguer, apprendre à s'interroger. Hein, donc tout ça en vue d'une forme d'autonomie intellectuelle. Et je pense aussi, là tu parlais tout à l'heure de résistance, de l'enseignement par rapport à tout un tas de normes, même aux institutions. Je pense que la résistance, donc là je suis dans la tradition plutôt qu'ancienne, cette idée que ça nous permet aussi de lutter contre une espèce de paresse intellectuelle à laquelle, je trouve, on nous encourage beaucoup.
Oui, voilà. Absolument. On pense, tu penses là certainement à la réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» d'Emmanuel Kant, Bassiste à Aufklärung, où il parle de ce courage d'user de sa raison, de son entendement, à Oudé Sapere. Très beau texte, très beau petit texte qu'il faut conseiller à nos auditeurs. C'est le Kant accessible, le Kant des petits textes et des revues.
Tout à fait. Et donc, c'est un effort, bien sûr, un effort régulier, mais un effort aussi jubilatoire, je pense.
Tout à fait. Oui, absolument.
Peut-être que... Ah oui, c'est vraiment extraordinaire ce que tu viens de dire. Avant tout, philosophie, liberté, quelque chose qui nous arrive dans la privation, peut-être. Hein. La liberté, c'est quelque chose comme ça. Mais maintenant, je vous propose une perspective un peu différente, Nathalie et Stéphanie, qui est tout à fait absolument liée à ce que vous venez de dire. Je suis vraiment étonné parce que tu as parlé maintenant de la question du courage. Non ? Et aujourd'hui, un peu pour parler de que veut dire enseigner, je pensais de lire un petit morceau d'un auteur qui représente beaucoup pour moi, qui n'est pas un philosophe, mais un grand penseur, pour utiliser une distinction qui est magnifique dans la langue française, que nous n'avons pas. Et alors, c'est George Orwell. Et il y a quelque chose dans les lignes que je viens de dire, qui rappelle exactement ce que Stéphanie vient de dire, mais aussi ce que Nathalie... On n'a pas parlé avant, hein, donc il y a quelque chose de, comment dire, métaphysique peut-être. Alors je vais le lire en anglais, et après je fais la traduction, parce que c'est un anglais magnifique de George Orwell. Et après je fais la traduction. Ils sont deux morceaux qui nous amènent à deux conseils qui sont tout à fait fondamental pour moi dans l'enseignement de la philosophie, qui sont la nécessité d'un côté et de l'autre côté le plaisir, mais avant tout la nécessité. Alors je vais le lire pour vous et merci pour la patience. Alors George Orwell a écrit dans ce petit essai qui s'appelle « The Prevention of Literature », un essai qui a été publié en 1946, c'est-à-dire... Des années tout à fait pas faciles du tout dans l'histoire contemporaine. Et alors, il a écrit ce magnifique essai, la prévention, on peut dire, de la littérature, qui est une magnifique réflexion aussi autour du conformisme. On l'a cité.
On en a parlé.
On a parlé, et après la force de l'écriture, aussi l'orthodoxie, aussi le totalitarisme, aussi la puissance du politique et de la politique. Alors, je voudrais vous proposer ces deux morceaux et on va un peu discuter ensemble. Le premier morceau, c'est magnifique. Il dit « To write in a plain, vigorous language, one has to think fearlessly. And if one thinks fearlessly, one cannot be politically orthodox. » Alors, je vais le traduire. Pour pouvoir écrire avec un langage clair, vigoureux, on doit penser sans peur. Ah, voilà le courage qui arrive. Penser sans peur. Et si on pense sans peur, on est nécessairement non orthodoxe d'un point de vue politique. Ah, vous voyez, il y a déjà plein de sujets, des choses que Stéphanie, mais aussi Nathalie, ont déjà mentionné. Vous voyez très bien, penser sans peur. Pour moi, enseigner la philosophie, exactement ça. Et la nécessité de passer, cette nécessité de penser sans peur, c'est-à-dire d'avoir le courage de penser. Aussi, un passé non orthodoxe. Orthodoxie, c'est quelque chose que les philosophes connaissent très bien. Orthodoxie, c'est-à-dire orthos en grec, ce qui est juste, ce qui est droit, et doxa, l'opinion.
Tout à fait.
Stéphanie a parlé de Socrate, de Platon, de toute la philosophie qui s'est bien développée à partir aussi de la critique de l'opinion. Et vous voyez bien, l'opinion aujourd'hui peut produire pas mal de monstres, de gigantesques monstres. Et alors, aller au-delà de cette peur, et donc penser sans peur, c'est déjà philosopher. Et c'est quelque chose que nous avons le courage et l'envie
de donner, de transmettre à nos élèves. Voilà, on est déjà de magnifiques enseignants, peut-être.
Oui, c'est vrai.
Second morceau que je voudrais lire avec vous et touche vraiment la question de l'enseignement, mais par rapport, encore une fois, à comment la culture, aussi l'être cultivé, ne signifie pas jamais, mais ne signifie pas beaucoup si on a une nature humaine déjà un peu, comment dire, déjà un peu fascinée pour la culture, pour les êtres humains. C'est-à-dire, si on est déjà un peu prédisposé, on peut dire
oui,
comme ça.
Oui, tout à fait.
Alors, je vais lire et après je fais la traduction. « When one sees highly educated men looking on indifferently at oppression and persecution, one wonders which to despise more, their cynism or their short-sightedness. » Alors, vous voyez ici, quand on voit des hommes bien cultivés, voilà l'éducation, voilà la culture, qui regardent avec indifférence l'oppression et les persécutions, on se demande quoi mépriser le plus, leur cynisme ou leur myopie. Et alors, peut-être enseigner la philosophie, c'est aussi enseigner à regarder au-delà, au loin, entraîner le regard aussi et surtout de penser autrement contre l'oppression, contre la persécution, donner les outils intellectuels avant tout pour parler comme ça. Et vous voyez le cynisme, cette inclination de l'âme qui nous fait oublier que nous sommes toutes et tous des hommes et des femmes. Et la myopie, c'est-à-dire ce regard un peu étroit, un peu mauvais, on peut le dire.
Tout à fait.
Et alors, vous voyez bien ici la nécessité aussi de transmettre tout ça. Je trouve ça, c'est vraiment au cœur peut-être de l'enseignement. Je disais aussi le plaisir, peut-être. Dernier petit mot.
Oui.
Bien sûr, pour le plaisir, c'est-à-dire qu'enseigner, c'est un plaisir. Mais c'est aussi le plaisir de transmettre le plaisir. Comment on va se passionner, tomber amoureux d'une page de... Ah, on peut... Le catalogue est énorme, de Montaigne.
Ouais.
Comment on va s'amuser...
Très bon choix, Montaigne.
Oui, on touche les coups de foudre, on a dit, non?
Oui, complètement, oui.
Oui.
C'est de l'amitié, Montaigne aussi.
Ah, bon, l'amitié, comment on va repenser aussi nous-mêmes, notre même nature humaine, dans quelques lignes, quelques mots, dans l'espace qu'il y a entre les mots. Je trouve ça, c'est transmettre le plaisir, c'est déjà enseigner.
Tout à fait, absolument. Alors avant de passer une première musique qui va concerner Yves Montand, voilà, peut-être ce qui ressort de ce premier moment, de notre première conversation autour de l'enseignement de la philosophie, si finalement notre rôle c'est de transmettre des connaissances liées à la philosophie, parce que c'est aussi ce que nous faisons. D'une certaine manière, nous serions dans une forme d'instruction. Hein, on essaie de transmettre, voilà. Mais cette transmission, et je crois que là c'est propre à la philosophie, elle ne peut pas être déliée de la question de l'éducation. Et c'est ce qui ressort de vos deux interventions. Alors qu'est-ce qu'on appelle éducation ? En tout cas, peut-être la véritable et la seule pédagogie, c'est-à-dire, alors pédagogie, on rappelle à nos auditeurs que ça veut dire faire prendre le chemin, hein, on prend le chemin, le pédagogue c'est celui qui emmène par la main, bon, mais on emmène par la main comment ? Or, la philosophie, elle porte en elle-même ce chemin pédagogique. Hein, on pourrait dire que tout grand système philosophique porte une pédagogie. Cette pédagogie, pour nous, elle n'est pas déliée, je le disais à l'instant, de la question de l'éducation, puisque instruire, on a bien vu tout à l'heure, à travers les programmes, ce que nous essayons de faire, hein, chacun dans nos lieux d'enseignement, c'est précisément de toujours avoir un petit peu ce regard schizophrène, hein. C'est-à-dire, nous sommes au sein de l'institution, nous avons quelque chose à délivrer, ne serait-ce que des méthodes, ne serait-ce que des cours autour de notions. Et en même temps, cette instruction, elle a quand même pour but l'éducation, c'est-à-dire de conduire et de diriger le développement de la formation et la formation de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est notre élève, notre étudiant. Alors, développer, c'est enlever ce qui enveloppe. Hein. Quand on revient sur la question de l'idéologie, c'est étendre ce qui est plié. Hein. peut-être on essaie de faire ça, c'est-à-dire déplier l'âme de nos élèves, déplier les possibilités de nos élèves, hein, ce qui est enroulé, hein, enroulé par le social. Bon. Donc, je crois là, il y a vraiment quelque chose, et je crois que c'est propre à la philosophie, parce qu'il faut un petit peu qu'on se lance des fleurs, hein, on fait de la philosophie, c'est peut-être une des dernières disciplines. Michele nous... Peut-être tu nous en parleras pour l'Italie, mais en tout cas, Stéphanie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu l'as dit, c'est une des dernières disciplines qui fait encore... qui oblige à réfléchir par soi-même et à ne pas précisément en rester au stade des connaissances, mais avec des connaissances, essayer de... peut-être de détruire finalement... les opinions, les mauvaises représentations que nous nous faisons de la réalité.
C'est une connaissance pour s'armer, pour gagner son autonomie, son émancipation et effectivement savoir dépasser les opinions, les préjugés. Enfin, en tout cas, c'est une tentative.
Tout à fait.
et qui se situe dans une résistance aussi par rapport à des diktats, à une volonté de faire un parcours uniquement professionnel ou voilà, c'est aussi une spécificité française, je pense, hein, de cet enseignement-là.
Oui, oui.
Et libre, en fait.
Tout à fait. Et Michele, tu faisais tout à l'heure référence à la dimension politique hein, dans ton intervention, vraiment à la police. Il faudrait, là, on lance un peu des idées pour nos auditeurs qui iront chercher par eux-mêmes. Il faudrait faire référence à la païdéia grecque. La païdéia grecque, bon, cette éducation dont il nous reste encore quelque chose, c'est-à-dire il faut être un polytechnicien. Pour la païdéia grecque. C'est-à-dire il faut être artiste, il faut avoir un devenir artiste, il faut avoir un devenir gymnaste, il faut avoir un devenir intellectuel, il faut avoir un devenir... voilà, il faut être polytechné, mais dans quelle finalité ? La finalité d'un éveil au politique.
Absolument, oui.
Voilà.
Oui.
Donc ça, c'est...
Oui, c'est la pluralité des capacités, des potentialités, qui est exactement au contraire aujourd'hui, c'est,
je viens
de dire, bon, la spécialisation... extrêmement, c'est-à-dire on doit se spécialiser en quelque chose, c'est extrêmement important, mais l'élément est bien plus complexe.
Complètement.
Et ce que la philosophie nous apprend quelquefois, qu'il y a une complexité qu'on ne peut pas réduire. Tant qu'il y a une complexité qui toujours nous aide, mais après il y a quelque chose au-delà de la simple spécialisation et quelque chose que la complexité nous force aussi à comprendre. Et c'est aussi là, quelquefois, que la philosophie... Pas quelquefois, souvent que la philosophie arrive.
Tout
je trouve
fait.
Ça, cette référence à la païdéia, tout à fait génial, oui.
Alors, pour aider nos auditeurs, moi, je conseille le livre de Moses E. Finlay, donc Finlay, Démocratie antique et démocratie moderne, qui est régulièrement publié. Très court ouvrage qui fait vraiment une comparaison entre la démocratie moderne, particulièrement sur le mode anglo-saxon, avec la démocratie antique. Et voilà, pour clore avant d'entendre Yves Montand, simplement se dire que finalement ce que nous avons posé tous les trois, c'est que la philosophie, elle essaie d'éclater ce que l'on nomme sujet, hein, c'est-à-dire nos élèves auraient à être sujet, c'est-à-dire, pour le dire clairement à nos auditeurs, à être une personne identifiable occupant une fonction attendue dans le social. Moi, ce que j'essaie de montrer à mes élèves, même de manière modeste et sans... Voilà, c'est de leur dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir et que c'est peut-être ça qu'il y a de plus beau.
Absolument. Voilà. L'incertitude joyeuse.
Voilà.
La spécialisation et une réduction. Et dans la nature, l'objet de la philosophie lui-même est par définition général.
Tout à fait.
Voilà.
Aujourd'hui, on dit toujours, tu es philosophe de quoi ?
Exactement.
Du langage, de la politique, du droit, de la science. Oui, on peut avoir une spécialisation, mais il y a quelque chose qui nous touche toutes et tous.
Mais c'est une violence qu'on leur fait à leur demander de plus en plus tôt de se spécialiser aux élèves. Ils le disent, qu'ils le ressentent. Alors, il y a une nécessité, bien sûr, mais c'est une difficulté pour
eux. Avec Parcoursup, tout à fait. Alors, on va écouter Yves Montand, hein, la bicyclette.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous
nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Aligre FM 93.1.
Et eh bien voilà, de retour sur Aligre FM après Yves Montand, nous allons laisser aux auditeurs le soin de réfléchir à pourquoi Michele a choisi la bicyclette d'Yves Montand. Il y a quelque chose comme la ligne de fuite dont on parlait tout à l'heure.
Peut-être, oui.
Peut-être, un rapport à la nature. Et je laisse tout de suite la parole à Stéphanie. Alors, nous sommes dans un deuxième moment de l'émission. Je rappelle, enseigner la philosophie au présent est notre grande thématique aujourd'hui. Et on a traité de enseigner la philosophie. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Et on est dans ce moment où on se pose, c'est quoi ce rapport au présent? Alors Stéphanie, pour toi qui est enseignante dans le secondaire.
Alors oui, pour moi ce rapport au présent, c'est entièrement lié aussi à la présence même de l'enseignant dans la classe, dans un espace-temps très particulier, hein, qui est celui de la salle de classe. Et bon, cette inscription avec le corps, j'y tiens, de l'enseignant dans cette classe, il est parfois un petit peu... il est depuis le confinement menacé. Et ce qui m'intéresse dans cette idée d'être, de philosopher, enseigner la philosophie au présent, hein, c'est le fait de rencontrer finalement, mais de rencontrer vraiment les élèves qui eux-mêmes se rencontrent. Je pense que c'est important aussi que les élèves se voient les uns les autres. Hein. Je dis ça aussi parce que j'ai appris récemment qu'il y avait des universités récemment qui faisaient des cours, des universités par exemple de médecine, où en fait les pauvres élèves sont tout seuls à regarder des vidéos préenregistrées toute l'année. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses que je trouve effrayantes et il faut qu'on soit vigilant. Alors, il faut qu'on défende justement ce caractère de l'enseignement qui est lié, alors pour la philosophie, avec la possibilité d'interroger toujours et qui passe par ce lien que fait l'enseignant entre le conceptuel et le non-conceptuel. C'est un peu la philosophie que... Enfin, c'est ce que dit Deleuze, la philosophie est toujours à la frontière entre le conceptuel et le non-conceptuel. Et moi, je le comprends à mon petit niveau d'enseignante en lycée comme cet art qu'a l'enseignant de toujours aller vers l'élève, aller vers ce qu'il est, un adolescent de notre temps, et de trouver des exemples de manière à faire vivre donc les textes de philosophie. En ce sens-là aussi, je suis sensible au fait que la philosophie enseignée est un art et non pas une science. Alors, c'est une évidence, mais en réalité, c'est aussi une idée qui se trouve menacée avec tout un tas de théories scientifiques, et en particulier l'existence récente d'un cabinet scientifique au sein du ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est tout à fait nouveau, avec l'idée qu'on pourrait faire des théories qui s'appuient sur les neurosciences, sur savoir comment bien enseigner. Or, je pense vraiment que c'est un art et non pas une science.
Tu entends par art, c'est aussi bien la technique que la possibilité d'y insuffler ta propre personnalité, entre guillemets, et de te laisser aller avec les aléas, les accidents des questionnements des élèves.
Les accidents qui naissent de la rencontre avec ces élèves, avec ces adolescents. Je trouve qu'il y a aussi peut-être un parallèle qu'on pourrait faire entre l'espace-temps du professeur et celui du comédien, parce que on est dans les deux cas face à un public. Notre objectif, c'est de donner vie à des textes. Hein, et donner vie, ça ne s'enseigne pas par des techniques scientifiques. Hein, c'est quelque chose qui s'improvise, mais une bonne improvisation demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que, là encore, je fais référence à Deleuze, qui dit qu'il travaille énormément, il prépare énormément, que ce soit ses cours de lycée, ses cours à l'université, pour transmettre ce qu'on appelle l'enthousiasme. Voilà, pour transmettre cet enthousiasme. Et donc, en gros, il s'agit d'éveiller la curiosité intellectuelle, hein, avec cette capacité à, comme le dit Aristote, à nous étonner, hein, à susciter. Et c'est une manière, je pense aussi, j'aime beaucoup aussi cette idée de rencontrer la jeunesse. Et je vous assure que c'est vraiment, enfin moi c'est mon élixir de jouvence, hein. Je trouve que ça marche mieux que les crèmes antirides, hein, voilà. La rencontre avec la jeunesse qui a beaucoup, beaucoup de questions, qui est très en éveil et qui ne demande que ça. Et donc, enseigner la philosophie au présent, c'est aussi la présence de l'enseignant. Et j'aimerais vous lire à ce propos un texte que je trouve d'une incroyable actualité, alors qu'il date de 1964. C'est un texte du philosophe Lucien Gerfagnon, qui est d'ailleurs aussi réputé pour être un très bon professeur, c'est-à-dire très érudit et en même temps plein d'humour. Hein. Je pense que ça, c'est bien d'avoir les deux. Et il fait un commentaire du livre de Georges Gusdorf qui s'appelle « Pourquoi des professeurs ?» dans un article qui se trouve dans la revue Critique, donc de mai 1964, la revue 204, voilà, la revue Critique, hein, c'est le nom de la revue. L'article s'appelle « Une pédagogie de la pédagogie ». Alors, je vais vous lire cet extrait qui insiste, enfin, tout l'article insiste sur l'idée que l'enseignement, c'est aussi apprendre ce qu'est l'humain, hein, ce qu'est l'humain, et dans le rapport humain, justement, hein, avec l'élève. Donc, voici l'article, enfin l'extrait. En fait, l'enseignement est avant tout un rapport humain. Et c'est ce que Gusdorf s'attache longuement à montrer. S'il était simple translation de matière, comme beaucoup le pensent, implicitement, la matière du cours, les matières du programme, on imaginerait très bien qu'on pût remplacer les enseignants à tous les degrés, par quelques moyens plus économiques, et le budget de l'éducation nationale s'en trouverait allégé d'autant. Avec les moyens audiovisuels dont on dispose aujourd'hui, ce serait un jeu, car on ne voit pas qu'il soit techniquement plus difficile d'enregistrer l'enseignement entier d'une nation que de mettre sur disque le monologue perpétuel et omniprésent de l'horloge parlante.
Voilà, donc Michele, tu veux peut-être rebondir, voilà, parce que l'heure tourne. Hein, voilà. Michele, tu veux rebondir. Merci, c'est 1964, c'est assez incroyable.
Oui, Michele. Oui, aujourd'hui, on est face à des prophètes, je vois. Hein, mais aussi, ce texte est vraiment prophétique. Mais c'est très intéressant la question d'enseigner la philosophie au présent. Qu'est-ce que le présent? Et peut-être ça pourrait être intéressant de, au moins durant un mot, sur le système dans l'enseignement de la philosophie anisalique, l'enseignement dans l'histoire des idées, on peut dire comme ça, qui est bien distribué dans la 3e, 4e, 5e année du lycée, c'est-à-dire le lycée linguistique, classique, scientifique, des sciences humaines. Et donc, vous voyez, c'est une histoire de la philosophie, mais ce n'est pas du tout seulement une histoire de la philosophie et des idées, mais c'est aussi, on le disait avant, faire de l'histoire de la philosophie, c'est déjà philosopher. Hein. Stéphanie nous l'a bien rappelé avant. Et je trouve tout à fait fascinant aussi l'idée de, comment dire, être dans le présent avec la philosophie. Et d'être dans le présent avec la philosophie signifie avant tout rencontrer nos élèves, rencontrer les étudiants. Pour moi, par exemple, à l'université, c'est toujours essayer de transmettre de l'enthousiasme. Une question que je me pose toujours est pourquoi on devrait t'écouter? C'est-à-dire, toi, une humanité face à toi, qui est en train de t'écouter, pourrait aussi faire autre chose. Mais pourquoi on devrait t'écouter? Parce que peut-être là, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que peut-être là, il y a aussi une occasion de rencontre. Une rencontre intellectuelle qui nous mène vers une meilleure compréhension aussi du présent. Et devenir petit mot, peut-être quelquefois enseigner la philosophie au présent pour les enseignants. C'est aussi quelquefois de se dire, bon, il ne faut pas oublier d'oublier. C'est-à-dire que quelquefois, on doit oublier quelque chose comme enseignant, le fait qu'on est enseignant et aussi notre expérience comme étudiant. Et quelquefois, il faut aussi que nous oublions nos connaissances, hein, c'est-à-dire ce qu'on a déjà et essayer d'avoir aussi un regard un peu plus naïf sur les choses pour passionner nos élèves et les étudiants en général.
Tout à fait, on revient sur cette première question qu'on avait abordée, la question du savoir. Voilà, le prof doit savoir ne pas savoir. Alors nous allons passer à un dernier petit jingle musical pour introduire avec Michele la rubrique Flanosophie.
Je vous souhaite la bienvenue à cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flanosophie. Donc prenez votre temps, éloignez encore pour un instant le portable, et oui, vous aussi, cher monsieur, chère madame, c'est pas le bon moment pour contrôler les prévisions météo en Nouvelle-Calédonie, croyez-moi, tout va bien là-bas. Et donc, si vous êtes prêts, prenons une respiration profonde et que la flanosophie commence. Bien, mais nous avons déjà un minuscule problème. Comment commencer quelque chose dont nous ignorons l'essence? Comment approcher cette flanosophie qui nous rappelle beaucoup et qui nous rend un peu curieux? Avant tout, nous devons faire un petit effort. Il faut s'engager dans un acte typiquement philosophique, poser une série de questions. Et la première et la plus importante ne peut qu'être « qu'est-ce qu'est la philosophie ? » S'agit-il d'une flânerie philosophique ou s'agit-il d'une philosophie du flâneur ? Pouvons-nous la pratiquer sans la connaître ou pouvons-nous la connaître seulement dans la pratique ? Et enfin, parlons-nous d'une discipline nouvelle ou peut-être d'une indiscipline ancienne? Vous voyez bien, chères auditrices et chers auditeurs, que nous sommes face à un objet mystérieux. Mais nous adorons le mystère, n'est-ce pas? Parce que le mystère est l'objet même de la philosophie, de cet amour, ou plutôt de cette amitié, qui est depuis plusieurs millénaires lié au savoir la plus mystérieuse des créatures, l'être humain. Mais revenons sur notre question, alors qu'est-ce que la philosophie? Très simplement, très doucement et aussi très humblement. La philanthropie est un divertissement. Un divertissement qui se compose d'un processus et d'un résultat. Comme processus, la philosophie est la pratique plutôt benjaminienne de flâner dans la sophie, dans la sagesse, le savoir, la pensée, dans les textes, la connaissance, la créativité, dans tout ce qui procure un plaisir intellectuel. C'est le fait même du plaisir qui nous rend philosophes, que nous le voulons ou non, que nous en soyons conscients ou non. Voici donc la philosophie et la grande famille de philosophes dont je suis sûr vous faites déjà partie. Dans cette première petite série de philosophie, nous irons flâner un peu dans l'espace. Est-ce qu'on peut philosopher dans la blancheur d'une page écrite? Est-ce qu'on peut philosopher dans la filigrane des nuages? On va explorer ces possibilités ensemble et en ajoutant du mystère au mystère peut-être ou très candidement, en pratiquant ce divertissement de l'âme que nous appelons philosophie.
Et voilà, nous avons entendu Michele Saporiti et sa magnifique voix italienne. Nous avons trois voix et bientôt une quatrième avec Isabelle Raviolo, très reconnaissable. Voilà, nous sommes ravis de cette nouvelle rubrique qui terminera à chaque fois nos émissions, Flanosophie, dont Michele a eu l'idée, dont il est l'inventeur. Voilà, très belle idée. Nous terminons cette première émission, tous les trois, qui s'intitulait donc Enseigner la philosophie au présent. Nous sommes l'émission Philosophie au présent du Collège international de philosophie en partenariat depuis désormais 5 ans et demi avec Aligre FM qui nous reçoit. Aujourd'hui, nous avions le plaisir d'avoir à la technique le grand, le magnifique, le splendide Amazir Hamidaïn Guest qui nous a bien aidé. Magnifique. À très bientôt, les camarades. Directeur de programme au Collège international de philosophie et philosophe, corps et âme.
Merci Nathalie, beaucoup. Merci Stéphanie.
Merci à vous deux.
À bientôt.
Et je me demande si je vais pouvoir flanosopher en cours de philosophie maintenant.
Merci beaucoup. Bonne
Merci.
Journée.
Au revoir.
FM 93.1